Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et là, on va faire le bilan. Et c'est le bilan d'une année vraiment particulière. D'abord, parce qu'en faisant cette émission, on va essayer de gommer, faire comme si la précédente n'existait pas. Puisque la précédente, on était en train de dire « Ah, qu'est-ce qu'on va regarder au cinéma quand ça réouvre ?» Et finalement, bah, ça réouvre en janvier.
Ou pas.
Non, croisons les doigts quand même. Celle qui est négative, c'est Perrine Kenson. Hello Perrine.
Hello.
Et celui qui est positif derrière, c'est Yérim. Yérim Sarr, hello.
Salut.
Je te sens positif aussi. Alors, pourquoi c'est une année particulière? Tout le monde le sait, c'était une année de Covid. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais affronté ça, on n'a jamais vu ça non plus dans les salles de cinéma. Et je veux juste commencer par le box-office. D'habitude, c'est le. Bah, y a des comédies françaises qui trustent le cinéma français. Là, c'est un peu le cas. La comédie de l'année, et j'ai du mal à le croire, la comédie de l'année, bah, c'est Ducobu 3 qui fait 1,5 million de spectateurs. Et elle est cinquième derrière Tenet, 1917, Sonic, le film, et Bad Boys for Life. C'est vous dire qu'on a une année un peu pourrie. N'est-ce pas, les amis?
Bah, c'est compliqué, quoi. Il y a très peu de films qui passent le million dans ce que t'expliquais. Et en fait, finalement, Ducobu a eu le flair de sortir au bon moment, sans le savoir peut-être, a sorti vraiment le bon moment pour bah, déjà, il avait un gros public potentiel, mais en plus, il a profité des semaines d'ouverture vraiment sans trop de contraintes. Donc, ouais, non, c'est complexe.
Le deuxième comédie qui a rapporté le plus cette année, c'est 30 jours max, avec 1 100 000 spectateurs de Tariq Boudali. Yérim, un commentaire?
C'est totalement pas mérité.
Et alors, c'est vrai, alors c'est totalement pas mérité. Il faut reconnaître quand même que ces mecs-là, ils savent déplacer les foules, même à une période de confinement et de distanciation. Et... Juste au-dessous, on a les blagues de Toto qui fait un peu le carton. En fait, c'est vraiment les trucs pour enfants en fait qui ont cartonné du Cobu, 30 jours max et blagues de Toto. Enfin, si on admet que 30 jours max est un film pour enfants dans la mesure où il y a Philippe Lachaud qui se fait implanter des seins.
Pourquoi pas.
Et des fesses.
Et des fesses. C'est vrai qu'à la fin, il y a le Annie.
Et on c'est un petit peu le twist de fin, clairement.
Spoiler alerte, les gars.
Et on se souviendra que c'est Elie Semoun, le réalisateur français, qui a remetté le plus de gens en salle en 2020. C'est très paradoxal. Lui qui n'a jamais vu, qui était un peu éloigné des longs métrages. Alors maintenant qu'on a parlé des plus gros, nous on va parler de ce qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière aussi nous intéresse. Un peu moins d'un million, il y a le film de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, et je crois que tu l'as vu, Perrine.
Oui, j'avais vu le Prince oublié, et c'est vrai que j'avais eu ce mini débat avec toi. Est-ce que c'est vraiment une comédie? Parce que moi, je vois plus ça comme vraiment un conte pour enfants, qui est vraiment dirigé pour les enfants. Même si, quand on regarde le film, se pose toujours la question, à qui tu parles? Parce que on est quand même, c'est un film donc qui se passe dans un univers assez enfantin, dans l'imagination d'une petite fille, mais plus ou moins, puisqu'en fait, on est du point de vue du père, du point de vue de Omar Sy. Et donc, en fait, c'est plutôt la difficulté d'un père d'admettre que sa fille grandit et qu'il n'est plus l'alpha et l'oméga de son imagination, en fait, et que d'autres choses viennent, rentrent dans la tête de cette petite fille. Donc, finalement, c'est plus un film sur la difficulté d'un père d'admettre que son enfant grandit. Et donc, c'est là où je me dis, bah, en fait, ça, les enfants, ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est un peu difficile de se lier à ça. Donc, c'est vrai que j'avais une question, un problème de point de vue sur le film. Et après, en soi, il y a des jolies choses, même si ça fait un petit peu mal aux yeux, quoi, au bout d'un moment, comme film. Il y a trop de trucs.
C'est un peu sucré, c'est un peu, y en a un peu trop.
Un peu trop, ouais.
Toi, Yérim, tu l'as pas vu?
Si, si, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé?
Sur le principe, même si, enfin, ça invente rien, enfin, j'étais plutôt client de l'idée. Dans l'univers, pas l'univers des rêves, dans l'univers imaginaire que le père construit pour sa fille et qui est donc montré à l'écran, tu sens que, je sais pas si c'est de la retenue ou si c'est que peut-être ça n'intéressait pas Zanavicius d'aller à ce point-là dans la représentation, mais en fait, t'effleures plein de trucs. Ça pourrait être ultra fantaisiste et en fait, tu restes à un niveau très humain. C'est-à-dire, en fait, tout ce que tu vois, c'est plus des éléments d'arrière-plan qui sont assez merveilleux. Mais sinon, tu suis le Omar Sy fictif avec François Damiens, enfin avec le personnage fictif qui est joué par Damiens. Et après, bah, l'autre léger problème, c'est que ça arrive 4 ans après Vice-Versa.
Vice-Versa, ouais.
Et ça reprend quand même pas mal d'éléments.
Dont l'ami imaginaire.
Ben ouais, il y a tout, tu vois. Et même le truc, le trou à souvenir oublié, enfin, il y a vraiment, vraiment des très grosses similitudes. Et vu que, ben, il y a quand même l'histoire parallèle dans le monde réel qui est pas très intéressante, et qu'il se lâche peut-être pas autant qu'il aurait voulu sur le monde imaginaire, voilà. Je trouvais que le film est sympa, mais il est dans un entre-deux qui l'empêche vraiment tout le temps d'emporter un peu le spectateur. Parce qu'il n'est pas à fond dans le monde imaginaire, et puis ce que tu vois dans la vie réelle, tu te dis, bon, ok.
Ouais, il y a des courses en mode et tout ça, quoi.
C'est vrai qu'il y a ça à la fin, ouais.
Ça casse pas des briques. Par contre, cette année, pour moi, c'est la surprise de l'année. Enfin, c'est pas la surprise, mais en tout cas, la bonne... Enfin, vraiment, j'étais content de voir ce film à ce moment-là, parce que les salles venaient de réouvrir, et je pense que en termes de timing, il bat même du coup but 3. C'est Tout simplement Noir, qui fait presque 750 000 spectateurs. C'est une grosse perf pour Zadie et pour Johnny Wax. Vous l'avez vu tous les deux, alors est-ce que vous pensez que... Moi, c'est un peu ma comédie de cœur cette année, hein, je vous le cache pas. Est-ce que vous en avez un aussi bon souvenir que moi?
Moi, perso, oui. C'est, déjà, j'étais content parce que c'était le premier long de J.P. Zadie et de John Wax. Je trouve que c'est peut-être pas coup d'essai, coup de maître, mais c'est ultra efficace. En plus, moi, je suis très client du format mockumentaire. C'est quand même très, très rare dans les comédies françaises.
Et bien maîtrisé, en plus.
Et là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un truc où c'est quand même super bien foutu, c'est bien écrit. Ils ont vraiment souligné les travers de chacun parce que, donc, on rappelle que c'est un film où tous les guests jouent leur propre rôle. Donc, t'as un festival d'acteurs renois.
T'as Joey Starr, Lucien Jean-Baptiste,
voilà, plus des rappeurs, enfin, t'as tout le monde qui s'est vraiment prêté au jeu et qui parfois se mange des trucs qu'on pourrait juger un peu dur, tu vois, dans la gueule.
Enfin, donc, Lucien Jean-Baptiste en particulier.
Lucien Jean-Baptiste et les bouées qui sont quand même dans une joute verbale ultra vénère. C'était aussi la découverte, avec des gros guillemets, de Fary en tant qu'acteur de Cinoche.
C'est peut-être la grande surprise et vraiment, quel super acteur, quel gros potentiel. J'ai envie de le voir dans plein d'autres films, Fary.
Voilà. Alors après, je crois que c'est vraiment pas du tout son truc. Que c'était vraiment coup de cœur pour le scénar de JP et John. Mais je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve que c'est pas vraiment ce que la presse en a dit dans le sens, le truc qui va résoudre les problèmes. Non, c'est une comédie. Et en tant que comédie, c'est vraiment bon. Et en plus, c'est rafraîchissant parce que, déjà, t'as le personnage de JP qui bouffe l'écran et qui est unique en son genre. Le côté système D absolu de la conception du film, la réal et tout. Donc, ouais, j'espère... Enfin, je sais, de toute façon, il m'avait dit que je crois que c'est Gaumont, s'il ne me plante pas. Enfin, qu'ils étaient assez satisfaits et que, a priori, lui et John repartaient sur un autre film, quoi.
Donc, c'est super timing. Le DVD est sorti juste avant Noël. Si vous avez encore une envie d'achat, c'est le bon moment, quoi. Il n'y a même pas besoin de passer par la case VOD. Vous pouvez l'avoir en DVD. Vous savez, c'est des espèces de disques qui sont vendus dans des boîtes. Enfin, si je dis ça, mais quand tu offres un DVD aujourd'hui à un gamin, il sait plus, il te regarde comme si tu lui as offert un couteau, quoi.
Un couteau. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Irim. Enfin, moi, j'en ai un souvenir assez excellent, en fait, du film, et j'y repense assez régulièrement, que ce soit pour les vannes. En effet, Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, trois noirs le cul dans la neige, ils pensaient du Ken Loach. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, cette phrase. Mais même plus simplement, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect, comme tu disais, système D, il y a un énorme timing comique, il y a des acteurs qui sont déments et qui jouent excessivement bien eux-mêmes ou une parodie d'eux-mêmes. Ils vont pousser certains traits. Mais ce que je trouve vraiment super, c'est qu'il y a aussi quand même une intelligence d'écriture. C'est que c'est pas juste de la blague pour de la blague, c'est qu'il y a quand même une vraie réflexion sur la place des acteurs noirs ou des artistes noirs finalement dans la société française, ou en tout cas dans le 7e art ou le sport ou la musique française. Mais il y a aussi et quand le film d'un seul coup devient parfois un peu plus sérieux, je pense notamment au moment où Jean-Pascal Zadi se fait arrêter. Eh bien, il arrive à gérer ces transitions-là, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend quand est-ce qu'on ne doit plus rire. Il y a une vraie force.
Les associations, tu sais que ça, c'est sérieux et que c'est, on prend pas ça à la rigolade.
Non, parce que ça n'est jamais moqueur. Le film n'est jamais moqueur. Le film est juste très malin. Il caricature, à la fois il s'amuse à être un peu absurde à plein de niveaux. Mais je trouve qu'il a une vraie intelligence, il sait où il va, et sous ses airs de système D, en vrai, il y a un vrai talent d'écriture qui fait que le film dépasse la simple bonne blague. C'est que, voilà, c'est, pour moi, c'est un film très intelligent, et c'est vrai que j'y repense assez régulièrement.
Ouais, je crois que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année.
C'est vrai que t'as l'émotion à la fin, que tu ne sens pas venir, et il arrive à te faire un truc, tu fais, ouais, putain, c'est quand même, ça arrive à être touchant.
Ouais, au milieu de salaud, quoi, je chiale. Ouais.
De tout, quoi. Spécial pour, je pense, avec le recul, dans le côté, enfin, caméo, c'est plus qu'un caméo, dans le côté guest, qui est plein d'autodérision, je pense qu'avec le recul, c'est Kassovitz qui m'a.
Ah, Kassovitz, c'est super.
Kassovitz, c'est incroyable.
Mais tu sais quoi, il a une vraie carrière, Casso, parce qu'il joue, un film sur deux, il joue soit un mec d'extrême gauche hypocrite, soit un mec d'extrême droite hypocrite. Mais il joue jamais un mec politiquement centriste. Il joue toujours un mec vraiment borderline à chaque fois. C'est assez fascinant, sa manière de choisir ses rôles. Et moi, j'aime bien l'apparition d'Éric Judor aussi, qui fait un pastiche de lui-même extraordinaire, mais comme quoi, il peut être aussi excellent acteur, même quand il est pas chez, quand il fait pas des
quand il est pas dans Platane ou, quand il est pas chez lui, quoi.
Quand il est pas chez Dupieux ou chez, voilà. Et l'autre succès de l'année, et là, Périne, je sais que tu l'as vu, c'est Antoinette dans les Cévennes.
Ouais.
Alors ça, c'est vraiment le. Alors, tu l'as vu à Cannes puisqu'il était dans la sélection officielle.
Non.
Et c'est un peu le rendez-vous des stars de l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est une comédie qui est complètement portée par Laure Calamy et par Benjamin Laverne. Je sais que toi, tu as aimé.
Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, le pitch est plutôt sympathique en reprenant un petit peu l'itinéraire de Stevenson, du livre de Stevenson sur justement cette histoire dans les Cévennes, quoi, avec l'âne et tout. Le film a quelque chose de très intéressant, notamment sur la vision de la femme adultère, c'est-à-dire cette femme qui est la maîtresse. Et donc on va suivre cette maîtresse qui veut absolument récupérer l'homme qu'elle aime, qui lui est parti en vacances avec sa femme et son enfant. Et donc c'est une position qui est pas si habituelle, en fait. D'un seul coup, on est plutôt soit de la part du côté de l'homme qui trompe ou du côté de la femme blessée, mais pas du côté de la maîtresse. Et elle est excessivement touchante. Et en fait, c'est un vrai récit d'apprentissage.
La maîtresse blessée, c'est un vrai concept, quand même.
Non, mais la maîtresse blessée, puis en fait, c'est la maîtresse. En fait, c'est l'histoire d'une femme amoureuse qui pense qu'elle ne peut se réaliser que par ça et qui en fait apprend au fur et à mesure qu'elle est plus que cette femme amoureuse, elle vaut plus que ça. Et mais ça donne des situations assez dantesques, que ce soit avec l'âne, que ce soit avec les autres personnes. Il faut un personnage aussi, enfin en tout cas il faut une actrice aussi énergique que Laure Calamy, avec une amplitude de jeu aussi forte que Laure Calamy pour jouer ça.
Ah, elle fait all-in, hein. Elle met tout.
Elle est parfaite. Et franchement, sous ses petits airs de comédie de pas grand-chose, Antoinette dans les Seven, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur une manière de regarder les femmes. Et j'aime pas trop raconter ça, dire ça, c'est un film de femmes ou quoi que ce soit, mais vraiment de regarder cette femme-là avec toute sa dimension, ses qualités, ses défauts, ce n'est pas un personnage parfait, loin de là. Et bien, moi, je trouve que c'est très, très beau et ça enrichit non-stop la comédie, en fait. Voilà.
Je suis assez étonné. Je trouvais ça... j'étais surtout surpris parce que je voyais le trailer et je me disais, mais comment on peut faire quelque chose d'intéressant avec ce sujet ? Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça dépasse le sujet et que vraiment... c'est vraiment bien incarné, quoi. Enfin, c'est rare de voir des gens s'abandonner complètement dans la comédie, dans l'humour, là-dedans. À ce niveau, en tout cas, c'est une vraie... j'ai trouvé que c'était vraiment... Ouais, c'est con de dire ça, mais c'est rafraîchissant.
Ah oui. Et puis, il y a une scène d'anthologie. Enfin, pour moi, il y a une scène d'anthologie quand le personnage d'Olivia Cotte, qui joue la femme de Benjamin Laverne, qui, en fait, elle sait très bien qu'elle est trompée, et elle se met au même niveau qu'elle dans la randonnée et elle lui dit tout face à face. Mais alors, c'est un moment de gêne absolue, mais qui devient un vrai moment de comédie. Et en même temps, c'est d'une violence que j'avais rarement vue à l'écran. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir su filmer ça. Un personnage qui n'est pas dupe et qui lui dit, tu t'es rien, en fait. Et après, ça devient un vrai moment de comédie. Mais je trouve que le film arrive toujours un peu... en étant complètement différent, mais un peu dans ce que fait le film de Jean-Pascal Zadi et John Wax, c'est-à-dire que c'est des films qui sont bien plus malins qu'ils ne paraissent, en fait. Et ils dépassent la blague pour vraiment raconter quelque chose, et moi, je suis assez surprise et agréablement bouleversée par ça.
Je me rends compte que j'ai commis une injustice. Il y a un film qui a fait plus d'un million cent et que j'ai oublié de mentionner, et c'est une comédie. Mais en fait, c'est un remake d'un film argentin, comme ça se fait beaucoup en ce moment. C'est 10 jours sans maman. Alors, est-ce que vous êtes à jour sur 10 jours sans maman ou vous n'avez aucune envie de voir le Franck Dubosc de l'année ?
J'ai bien envie de le voir, je suis juste pas à jour.
Alors, calmez vos enthousiasmes, c'est vraiment pas bien. Mais c'est tout ce que tu veux. Alors, 10 jours sans maman, le concept, c'est un chef d'entreprise. Franck Dubosc est un chef d'entreprise. Et puis, sa femme, elle en a ras-le-bol de lui et elle se barre pendant 10 jours et elle le laisse avec les 3 enfants. Et oh là là, c'est dur la vie. Et c'est vraiment, c'est ça le pitch du film, c'est horrible. J'ai passé un moment exécrable malgré Franck Dubosc. Vous savez, comme je suis un peu Franck Dubosc sexuel. Là, vraiment, c'était vraiment pas bon. J'ai que des mauvais souvenirs en fait de ce film. Donc, je suis désolé de vous briser toutes vos espérances. Par contre, on ne peut pas ne pas parler de La Bonne Épouse, qui était quand même un des films de reprise. Comédies. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Puisque toi, je dis toi, Perrine, parce que je crois que tu l'as pas vu hier. La Bonne Épouse.
Non, je voulais le voir et je pense que c'est vous qui m'avez un peu découragé.
Je crois. On n'a pas fait d'émission sur La Bonne Épouse. Perrine, non, qu'est-ce que tu en as pensé ?
On s'en était parlé.
Non, moi, je comprends pas ce film, en fait. Hein, vraiment, c'est un truc. Le pitch était sympa. Enfin, l'idée de revenir dans à la fin des années 60, juste au début de d'une certaine révolte de société et sexuelle, et notamment pour les femmes, et de raconter la fin de ces maisons d'éducation de jeunes filles, quoi. Le pitch était sympa. Mais alors, c'était. Enfin, j'avais l'impression déjà de regarder Malout à plein de moments, et c'est pas un compliment chez moi.
De regarder... Je te brofiste.
Je souffrais un peu.
Mais Malout jouait avec Noémie Lvovsky, je pense que c'est au-delà de ce que je
pouvais. Mais en fait, les personnages sont tous poussés à l'excès, ultra caricaturaux, et c'en est même pas comique. Et surtout, en fait, le film ne peut pas s'empêcher de rajouter des couches. C'est-à-dire que...
Yolande Moreau.
Non, mais enfin, Yolande Moreau, mais enfin, pour moi, le truc, c'est déjà, ça parlait d'un truc intéressant, là, ces histoires d'école de jeunes filles. Et par-dessus, on te rajoute la Seconde Guerre mondiale, on te rajoute l'histoire des Juifs, on te rajoute je sais plus trop quoi. Enfin, tu fais genre, ça fait beaucoup, en fait. C'est beaucoup trop. Et alors, se termine cette fin. Mais là, au moment où tu penses que tu peux pas dépasser, tu peux pas toper. Voilà. Au moment où tu peux pas toper. D'un seul coup, ça devient un clip de Christine and the Queen avec des citations de féministes sur fond de chorégraphie expressionniste et de slam. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait ? Et là, j'ai perdu pied. J'ai perdu pied totalement. Enfin, j'ai fini en fou rire. mais pas grâce au film, mais à cause du film. Et non, j'ai pas compris le projet, en fait, La Bonne Épouse. J'ai vraiment pas compris le projet.
Il reste encore deux comédies, je pense, importantes de l'année. Il y a eu Divorce Club. Et donc, ça fait que Michael Youn est quand même dans le top 30 des entrées en France cette année. Est-ce que personne n'a vu, quelqu'un l'a vu ?
Moi.
Et alors, est-ce que tu regardes Un Bon Souvenir ?
Non.
Je comprends pas. Cette histoire de mec qui se retrouve tout seul et qui ensuite retrouve son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, qui est François-Xavier de Maison dans une belle villa. Et il lui dit deux choses. Il faut pas que tu couches avec mon ex. Et deux, que tu conduis pas ma Ferrari. Tu t'es pas dit que les deux choses vont arriver dans le même film.
Ah non, je vais pas te dire qu'il y a aucun moment où tu souris, c'est pas vrai.
Il y a Audrey Fleurot et je suis toujours content de voir Audrey Fleurot.
Le film a a une telle énergie du gag, c'est-à-dire que c'est non-stop, que forcément c'est un film qui fait plus la place à la quantité qu'à la qualité. Donc dans l'eau, il y en a forcément quelques-uns qui fonctionnent, si tu veux. Mais dans l'ensemble, non. C'est juste non, en fait. Je sais pas ce que tu veux me raconter. Je sais pas. Ça paraît vieux, ça paraît daté.
Ça paraît riche aussi. C'est joué aussi.
Oui, bah, bien sûr. Alors, vaut mieux être divorcé et riche. Hein. Ça, c'est quand même plus sympa.
Divorcé, riche, qui conduisent des Ferrari, c'est vraiment. Mais on nage en plein délire. Tu vois, il y a un moment où je ne sais plus qui sont ces gens, en fait. Je ne sais pas de qui on est en train de parler. Et surtout, alors, j'ai vraiment des gros doutes sur Arnaud Ducret, en fait.
La scène bourrée d'Arnaud Ducret. J'avoue, c'était quelque chose.
Ouais, je crois qu'il fait bien le mec bourré.
Ah, mais... et c'était quelque chose, ouais.
Et encore, je crois que c'est la quatrième comédie avec McFly et Carlito de l'année. Parce que McFly et Carlito, en fait, ils sont dedans, mais ils ont un petit rôle. Je crois que dans 30 jours max, ils sont de dos, en fait. Et McFly et Carlito, en fait, ils invitent les réalisateurs de comédies françaises, ou les gens qu'ils aiment bien, les Eric et Ramzy et compagnie, et ils leur font faire un pari débile, et ils le perdent à chaque fois, et le pari, c'est... nous faire jouer dans ton film. Et à chaque fois, on les voit de dos dans le commissariat, ou voilà, ils ont des tout petits rôles, quoi.
C'est une manière comme une autre de récupérer des rôles, hein. Je vais tenter ça, hein.
Je pense que je vais inviter Delépine et Carverne et je vais leur faire des paris débiles pour jouer dans leur prochain film. Ce qui me permet de parler d'effacer l'historique. Yérim, t'en as des bons souvenirs, je crois.
Ouais, moi j'ai plutôt apprécié. Après, en général, je suis plutôt client du taf de Carverne et Delépine. Et là, ouais, c'était. Ils ont ce truc d'arriver à être touchant sans faire de la pleurniche à gogo non plus. Les trois persos principaux sont ouais assez émouvants. Ils ont tous des vies de merde à trois niveaux différents pour des raisons très différentes. Et puis les petites touches d'absurde, par exemple le personnage de la conductrice de VTC, parce qu'il
ne Corinne Maziero.
Ouais, le côté addiction, mais comme une drogue, juste aux séries, le fait qu'elle est abonnée à tous les services de streaming possibles et que quand elle te décrit ça, c'est une descente aux enfers qu'elle te décrit. Et ouais, et puis après. Dans Doctor House, et puis là, ouais, c'était la fin. Et toutes ces espèces de petites touches et tout, presque poétique aussi à la fin avec l'itinéraire du personnage de Podalides. Donc, ouais, moi, c'était plutôt un bon souvenir. J'ai peut-être juste des réserves sur le dénouement ou l'absence de dénouement. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se créent eux-mêmes un Deus Ex Machina, qui d'ailleurs se fait appeler Dieu ou Jésus.
Souvent, ils n'arrivent pas à finir à boucler les films, en fait.
C'est ça. Et tu sens qu'ils ne l'utilisent même pas, en fait. C'est-à-dire juste, ils résout un des trois problèmes, et juste après, le film s'arrête, et puis voilà, c'est comme ça, quoi.
Moi, je trouve que c'est... Enfin, j'ai déjà assez crié mon amour pour Carvalho de Lépine, mais c'est
une merveille. Il y a un film qui a été un plus malchanceux, je pense, parce qu'il est sorti vraiment... a été déplacé 15 000 fois de date de sortie, et on n'a pas pu en parler, c'est Terrible Jungle. Qui l'a vu d'entre vous ?
Moi.
Alors, est-ce que tu regardes un aussi bon souvenir ? Parce que Terrible Jungle, c'était celui dans lequel on fondait tous nos espoirs en fin 2019. Ouais. Est-ce qu'il survit à cette attente ?
Ah, complètement. Moi, j'ai adoré Terrible Jungle, vraiment. D'ailleurs, je me suis amusée à faire un top 10. Là, on doit faire des top 10 un peu partout pour des gens. Et il est dedans, en fait. Voilà, si je dois vraiment faire un top 10 des films sortis cette année, j'ai mis Terrible Jungle, qui m'amuse terriblement. Il a un énorme côté décalé que j'aime beaucoup. Alors, c'est grâce aussi beaucoup à l'énergie de... comment il s'appelle,
de Jonathan Cohen,
mais aussi de Vincent Dedienne et de la grande Catoche, hein, Catherine Deneuve donne beaucoup. Non, moi je trouve qu'il y a pareil, c'est un film auquel je repense souvent aux répliques aussi. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est peut-être un peu moins pertinent à plein de niveaux que Antoinette dans les Cévennes ou Tout simplement Noir, mais je trouvais qu'en termes d'inventivité, en termes de drôlerie, en termes de rythme, c'est un film qui s'échappe des rythmes habituels de la comédie, qui invente son propre rythme au risque de déconcerter. Moi, je trouve que ça fonctionne terriblement bien et j'ai le souvenir d'avoir une comédie où je riais vraiment très fort. Et ça me fait du bien, en fait, d'avoir des comédies où à un moment donné, je ris vraiment et je suis surprise par le rire qui est créé. Donc, mais ça doit encore une fois beaucoup à la personnalité des acteurs et de leur capacité à le jouer. Je pense que ça aurait été d'autres acteurs avec les mêmes répliques. Peut-être que le film perdait cette espèce d'équilibre très ténu entre ce non-rythme et le flow de ces artistes-là, quoi.
Alors, là, on a dit que Terrible Jungle avait un peu manqué sa cible et ça aurait été quand même l'année où il y a des films qui sont complètement passés sous le radar, alors que je pense que dans de meilleures circonstances, par exemple, je pense à Eleonore. Et Eleonore, que tu as vu?
Oui.
Alors écoute, ça fait partie de mes manques. Alors éclaire ma. Essaye de me hyper avec Eleonore, s'il te plaît.
Ah bah non.
Non, c'est vraiment pas
bien. Ah, je vais pas te hyper sur Eleonore. Non, c'est terrible. Là, tout à l'heure, je parlais sur Terrible Jungle de non-rythme. Bon, bah, Eleonore, c'est une découverte du non-rythme et qui ne fonctionne pas. Là, il n'y a rien qui marche, il n'y a aucun timing comique. Je ne sais pas où va ce film, je ne sais pas ce que me raconte ce film, j'en ai aucune idée. Il y a des conversations, des dialogues que j'ai l'impression d'avoir entendu mille fois et mieux. Je comprends vraiment, sincèrement pas ce film. Et vraiment, à l'heure où je te parle, je suis en train de réfléchir au projet encore et encore. Je ne sais pas du tout ce qu'a voulu me raconter ce film qui, pour moi, rate tous les marqueurs. Et en fait, à un moment donné, je me suis demandé si c'était un problème de montage. Sincèrement, à un moment donné, le film dure 1h20, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment la sensation qu'il manquait 25 minutes de film.
C'est plutôt l'inverse.
Ah non, j'ai l'impression que là, il manquait 25 minutes. Je comprends pas comment on en arrive de là à là. Comment ces personnages, d'un seul coup, celui-là avec celui-là, ça s'accommode. Je ne comprends pas. Il manque, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a piqué une bobine. Donc, je sais pas.
Alors, je sais que toi, tu disais la performance de Vincent Dedienne, ce qui a marqué un peu ton année. Est-ce que tu as vu Parents d'élèves de Noémie Saglio?
Nope.
Je crois que Yérim, tu l'as
vu. Ouais, je l'ai vu, c'est là.
Est-ce que tu regardes un bon souvenir? Parce que tu sais que c'est un sujet que j'aime bien, c'est les comédies d'ado. Et est-ce que c'est une bonne comédie d'ado pour toi?
C'est marrant, moi je ne l'aurais pas forcément catégorisé là-dedans, dans le sens où tu es beaucoup plus, pour le coup, du côté des darons que de leurs enfants.
Ouais.
Donc c'est, en fait, c'est... Ça promet peut-être ça, effectivement, un film d'école, entre guillemets. Et en fait, c'est juste une comédie romantique de base avec le truc, effectivement, vu et revu, où t'as le personnage principal qui établit une relation sur la base d'un mensonge et qui passe tout le film à essayer de colmater ces trucs. Mais Vincent Dedienne, il est sympathique, mais après, c'est juste que, à la limite, je le préfère en parodie de présentateur télé dans La Flamme qu'en rôle principal d'une comédie romantique, tu vois. Donc,
c'est le
but. Tu vois, il a une tonalité qui sait tenir, il n'y a pas de souci, mais après, voilà.
C'est vrai que c'est avec Camélia Jordana, tout d'un coup, j'ai tout qui est en train de se recomposer dans ma tête.
Donc, j'ai pas trouvé. À la limite, pour que ce soit bien, il aurait fallu le fusionner avec La Vie scolaire. C'est-à-dire que tu sais, que t'es une sorte de partie sombre, totalement triste.
Oui, avec des
côté,
enfants en échec scolaire,
qui est juste en train de courir après. De courir après une instite, quoi.
Alors, il y aura eu d'autres comédies. Il y a eu assez peu de comédies de jeunes, en fait, d'adolescents. D'habitude, il y en a beaucoup plus. C'est vraiment autant les rom-coms elles ont disparu, autant il y a beaucoup régulièrement de comédies avec des gamins. Là, il y en a vraiment beaucoup moins. C'est plutôt des comédies de daron. Par exemple, il y a eu Papy Sitter qui a vite disparu parce que visiblement les gens n'avaient pas envie de voir des grands-parents en train de se chamailler. Et surtout, l'année a été, enfin, elle n'était pas marquée, mais c'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé. C'est les comédies qui se sont vendues soit à Netflix, soit à Amazon, en particulier à Amazon, je pense. En l'occurrence, il y a eu Énorme et il y a eu.
Forte.
Énorme, c'est Forte.
Mais non, c'est
Énorme. Énorme, c'est Marina Foy, c'est Joe Cohen.
Voilà. Ah non, oui, excusez-moi là. Ouf, lapsus. Il y a eu donc Forte et puis il y a eu aussi Brutus et César, qui sont. Je pense qu'ils ont réussi à sauver au moins ce qui pouvait être sauvé, parce que si ça sortait dans ces conditions, ils allaient au casse-pipe. Là, on ne sait pas quel est le montant du chèque, mais en tout cas, ils ont réussi au moins à sauver la production. Est-ce que vous avez vu l'un des deux ?
Les deux.
T'as vu les deux ?
Les deux, mon général.
Et alors ?
C'était une bonne idée de leur part d'arriver sur les plateformes, parce que je pense qu'en effet, au cinéma, outre l'année compliquée qu'on a vécue, c'est des films, je suis pas sûre, qui auraient fait des cartons terribles. Et d'une certaine façon, c'est bien de les avoir chez soi. Puis en plus, au moment où ils sont sortis, c'est-à-dire pendant le confinement, bah, c'était plutôt malin, en fait. Hein. D'une certaine manière, on avait un peu que ça à faire, donc ça tombait bien. Bon, Brutus contre César, moi je vais aller vite, hein, c'est une catastrophe.
C'est
un accident industriel, je ne sais pas ce que c'est, mais.
On dirait une version test de Astérix Cléopâtre, en fait.
Ah non, une version test Astérix contre César, c'est-à-dire le truc de Zidi, quoi.
Ah ouais.
Qui était déjà pas fabuleux, mais là c'est vraiment.
J'ai pas compris le coup du gag de un mec qui glisse.
Ouais, pour poignarder, là.
Ouais, Brutus, c'est en fait, son gag, c'est qu'il tombe.
Oui, c'est ça, il peut pas tenir debout, il sait pas courir.
Et c'est... Comment tu peux arriver à un film où c'est l'idée de base ?
Non, mais il y a beaucoup de choses qui... Enfin, moi, j'ai l'impression de regarder un accident au ralenti, quoi. C'était vraiment...
Artus dans le rôle de Spartacus, tu vois, c'est genre... Vraiment ?
Non.
C'était très compliqué, hein.
J'ai l'impression que personne n'y croit dedans, à part peut-être Kayrod. Je crois que vraiment personne n'y croit. Donc c'est assez complexe à regarder.
Et ouais, t'as l'impression qu'ils sont tous venus prendre leur chèque quand même.
Mais ils sont venus là, ils étaient. Je pense que la température était bonne, le lieu était sympa, mais franchement, c'était. Et l'ambiance devait être très sympa sur le plateau. Mais là, c'est juste pas possible à regarder. Forte, après, il a plein de. Beaucoup de défauts, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais dans son ensemble, il a une énergie qui m'intéresse beaucoup plus. Il a un. Je trouve Valérie Le Mercier qui a peut-être 4 scènes dans le film super. Voilà, c'est un film qui, pour le coup, c'est un film qui va très bien avec une plateforme. Je vois pas du tout un film comme ça au cinéma.
Ah oui, c'est une catastrophe.
Mais voilà, je l'avais vu. Je me souviens quand je l'avais vu la première fois, j'avais vraiment été un peu dure avec lui. En y repensant maintenant, avec 7 mois d'écart. J'ai juste un peu plus de tendresse, mais ça me c'est malheureusement un peu oubliable comme film, voilà.
Et il y a un film dont je voulais parler, et c'est un film qui est sorti en tout début d'année, donc lui il a juste eu à affronter la fin de la grève et les gilets jaunes, parce que
juste ça
c'est ça, hein, c'est fallait vrai pour avoir du succès cette année, fallait passer entre les gouttes. Est-ce que vous avez vu Selfie, qui est un film omnibus avec plein d'acteurs différents?
Nope.
Yerim non plus ?
Non, je crois pas.
Attends. Bah, c'est que vous étiez pris dans les transports en commun.
C'est ça.
Selfie, c'est un film omnibus réalisé par 5 réalisateurs différents, et avec Blanche Gardin, Manu Payet, Max Boublil, Elsa Zilberstein, Finnegan Oldfield et aussi beaucoup d'autres comédiens. Et alors, donc, évidemment, c'est plein de petits courts-métrages, différents, dont avec une espèce de ligne directrice au milieu qui fait qu'à un moment, toutes les histoires s'unissent entre elles. Il y en a un en particulier qui est vraiment mémorable, c'est celui avec Blanche Gardin, en fait. Et c'est un humour noir d'un cynisme. C'est l'histoire de deux parents youtubeurs qui utilisent leur enfant malade, qui est visiblement une maladie type cancer ou quelque chose, pour pour le faire youtubeur et pour gagner des clics et des vues, quoi. Et c'est ça d'un cynisme absolu. Honnêtement, il y a que eux pour aller vraiment dans une telle noirceur et parce que évidemment c'est de la caricature, mais la réalité n'est pas si éloignée hein, quand on voit les gens qui essayent de faire du clic. Et je vous recommanderais, alors évidemment je peux pas vous recommander tout le film parce que si vous en voyez un, il faut tous les voir et tout ça, mais voilà, celui-là, en tout cas ce court-métrage-là, avec Blanche Gardin et je sais plus qui jouait son époux, mais voilà, c'est vraiment ça vaut, voilà, Selfie vaut le coup pour voir ce court-métrage-là. Il y en a d'autres qui sont bien, mais vraiment celui-là est vraiment mémorable. Je vous recommande vraiment Selfie. Et en plus, il est sorti en début d'année, donc avec la chronologie des médias, sans doute il est disponible en DVD. Vous savez quoi, c'est l'année de la chronologie des médias. Il y a des films qui peuvent pas en profiter. Je pense à Antoinette dans les Cévennes. Il est sorti en septembre. Il devrait.
Là, il va sortir en DVD là.
Bah ouais, mais il manque Noël. Enfin, vraiment, il aurait pu être en plateforme VOD pour les gens qui sont coincés chez eux. Ça serait. Alors, je veux pas de politique dans ce podcast, mais ça serait que justice de repenser au moins la chronologie des médias, surtout dans ce cas de figure.
Bah, ils l'avaient fait un peu quand même, c'est-à-dire que au premier confinement, tous les films qui étaient sortis, je crois le 4 mars ou celui qui devait sortir le, enfin qui sortit 2 jours avant le confinement là, le 11 mars ou je sais pas quoi, tous ces films-là ont pu bénéficier d'une sortie VOD rapprochée. C'est-à-dire qu'ils ont une sortie DVD, VOD, dans le mois qui a suivi.
J'ai pu voir comme ça, hashtag je suis là, donc avec Alain Chabat, qui je pensais allait être une comédie, en fait, avec Alain Chabat qui est perdu à Séoul, amoureux.
Ah oui, c'est le truc de l'amour à distance.
Enfin, de l'amour à distance. Voilà. Je pensais que c'était une comédie, c'était marqué comédie sur Allociné. Non, c'est méga doux, amer, c'est genre la solitude des réseaux sociaux, le mec bloqué dans un aéroport. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais c'était pas vraiment une comédie. Je vais vous demander laquelle est la comédie quelle comédie vous a le plus marqué et celle que vous avez envie de mettre le plus en avant.
Perso, c'est Tout simplement Noir, sans hésitation. Pour la forme, parce que c'est pour le coup, ouais, ça a changé vraiment. C'est niveau d'écriture, le format docu-fiction, enfin ouais, c'est vraiment un truc. Même si je m'intéresse pas spécialement à tout ce qui est César et tout, mais eux, je leur souhaite ouais d'aller si possible encore plus loin quoi.
En plus, ils ont bien fait, ils ont éliminé la concurrence puisqu'il y en a, il y aura très peu de concurrence cette année pour les Césars.
Ah, c'est sûr.
Bah ouais.
Ah, tu crois que quand même ils vont sortir des concurrents de sous le chapeau?
Ah, c'est moi, pardon, je croyais que tu parlais de.
Oui.
Non, j'allais dire oui, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de.
Ah,
y a pas beaucoup
c'est
de concurrence.
Sûr, j'ai entendu pas sûr, ok.
Bon, ah, bah, si, c'est sûr, mais après je sais pas du tout, c'est comme d'hab, hein, soit ils décident d'ignorer un succès public, soit pas, enfin, tu vois.
Oui, c'est leur habitude. Et toi, Perrine, c'est quoi ta comédie phare de cette année
Tout simplement Noir, je l'aurais mis aussi, mais pour en citer un différent. Alors, évidemment, Antoinette dans les Cévennes, mais il a déjà eu un très très joli succès et je lui souhaite encore plein de succès derrière, quoi. Mais un qu'on a moins entendu parler, bah, c'est Terrible Jungle, et que j'aime beaucoup, qui me, voilà, encore une fois pour son décalage, pour son écriture pas si commode, qui prend vraiment des chemins de traverse. Et prend des risques en fait, hein, avec son rythme, son absence de rythme et puis parfois son ton, qu'on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, et être border sur plein de choses. Moi, c'est un film qui m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup amusé et j'aurais aimé qu'il ait plus de retentissement. Après voilà, il est sorti en plein été, ça a été un peu un massacre de programmation, et c'est bien dommage parce que voilà, moi je trouve que c'était au moins, c'était un petit peu novateur. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien enchanté.
Et pour ma part, je vais pas recommander, mais je vais juste nommer un absent. Je n'ai pas vu Merveille à Montfermeil de Jeanne Balibar. Personne ne l'a vu nope. Autour de moi. Et je vois qu'il est disponible en VOD un peu partout. Merci à la chronologie des médias. Donc, du coup, cet après-midi, je vais rattraper mon retard. Je vais me regarder Merveille à Montfermeil. Et souhaitez-moi bonne chance parce que ça a l'air cocasse, comme un peu tous les films avec Jean Balibar.
Good luck.
Est-ce que vous avez une petite reco, juste comme ça, pas forcément un film, mais au moins quelque chose pour se divertir de chez soi, quelque chose de sous le chapeau. Est-ce que, Yérim, tu as quelque chose?
À la limite, il me semble qu'il est encore en salle, même si là, le truc a été coupé en deux, quoi, mais le Dupontel, je dirais.
Le Dupontel. Alors, je crois que, il faudra attendre les ressorties en salle. Donc, c'est une reco pour le futur, là. Ouais, est-ce que toi, tu penses que c'est une comédie quand même?
Oh, ouais, je le mets en comédie. On n'est pas du tout sur le Dupontel, mais... Au revoir là-haut. C'est-à-dire, il y a du slapstick, il y a vraiment du comic visuel pur, il y a des côtés cartoonesques et tout. Après, il y a un fond totalement triste, mais même dans Bernie, il y avait un fond qui était vraiment dramatique en vrai. Donc, je le mettrai dans les.
Et d'ailleurs, c'est un peu l'héritier de Bernie, hein, dans beaucoup d'aspects.
Ah, tu trouves, toi?
Ah, bah, le final.
Oui, d'accord.
Non, très, très, très Bernie, quoi. Vous savez quoi, Adieu les cons, je pensais pas en parler parce que je me suis dit, on en a un peu parlé au cours de l'année et je sais pas si c'était une comédie pure, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments de pure comédie comme Dupontel les faisait, quoi. C'est un peu un retour à quelque chose de plus fou, enfin un peu doux rêveur comme il sait faire en fait. C'est vrai qu'on l'a un peu, on en a parlé, on avait dit que c'était pas, on n'était pas, on était négatif, mais c'est-à-dire que c'était, on a trouvé ça moins imposant dans sa filmo que les précédents. Mais voilà, quand les salles réouvriront, ça reste un bon film à aller voir. Perrine, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander qu'on pourrait voir?
Ouais, que vous pourrez voir. Est-ce que c'est obligé que ce soit une comédie ou
quelque chose qui divertit?
Eh ben, qui divertit et qui fait du bien.
Entertain Us,
qui est sur Netflix, qui est sorti l'année dernière et qui est une petite merveille et qui est très bien en cette période de Noël. Ça s'appelle
Cloud. Sur DSK.
Donc docu sur DSK, voilà, ça c'est un truc pour recoller les morceaux en famille, pour avoir un bon réveillon de Noël.
Merci Janine, l'espère. Je l'ai vu.
Non, je vous recommande un dessin animé qui s'appelle Klaus, avec un K, Klaus, qui est une relecture du Père Noël, en tout cas de la naissance du Père Noël, comment le mythe du Père Noël s'est créé. Ce qui est magnifique, c'est déjà, c'est un film qui est en 2D, mais c'est de la vraie 2D, sur lequel ils ont inventé un nouveau système pour créer des ombres qui fait une image, mais absolument spectaculaire à regarder. On a l'impression que c'est de la 3D, mais non, c'est bien de la 2D. Enfin, c'est une forme un petit peu hybride, c'est absolument sublime. Donc, déjà, visuellement, c'est une grosse claque. Mais sorti de ça, c'est, touchant, hyper bien écrit, hyper drôle, très intelligent. Bien sûr, c'est pour les petits, mais alors les grands seront tout aussi enchantés en regardant Klaus. Je pense que c'est une Netflix, même s'il produit de plus en plus de films, ne produit pas toujours des merveilles, loin de là. Mais là, quand il fait ça, quand il se décide d'aller dans l'animation, de produire un truc et de laisser vraiment carte blanche à son réalisateur, j'ai peur de dire me tromper sur le nom, mais je crois que c'est Sergio Pablos. C'est une pure merveille d'enchantement. Et puis, en cette période de Noël, c'est juste parfait.
Eh bien, écoute, tu m'as donné une idée. Moi, je vais vous recommander aussi une série sur Netflix. C'est Emily in Paris.
Ouais.
Parce que moi, j'aime les trucs nuls. J'aime les comédies quand elles sont vraiment nulles. Je trouve ça divertissant. Et on n'a pas vraiment eu de trucs vraiment nuls. Il y a eu des trucs nuls, mais il n'y a pas eu de trucs insultants. Bon, si, il y a eu 30 jours max, mais à part 30 jours max. Et donc, Emily in Paris, c'est vraiment le crétinisme absolu
c'est
de ce
adjectif.
Que j'ai vu. Mais c'est puissant. C'est tous les Parisiens sont des connards.
C'est vrai.
Là, c'est objectif. C'est objectif. Là, tous les Parisiens sont des connards. Et la pauvre Emily vient pour nous apporter un peu de cette lumière de comment c'est le business aux États-Unis. Parce qu'on avait vraiment besoin d'Emily, justement. Et elle arrive toute cruchasse à prendre des selfies et à se devant des pains au chocolat. C'est une vision de Paris comme on n'en aura plus jamais, parce qu'en plus, chaque moment de cette série, tu dis « Ah, c'est pré-confinement en plus ». En plus, non seulement c'est con, mais c'est pré-confinement. C'est brillant de j'allais dire de nullité, mais c'est pas la nullité en fait.
Moi, je suis
c'est...
en passion hein, sur Emily in Paris. Hein. Je suis
et
en
plus, il y a la seconde saison qui devrait arriver. Et elle est au-delà du réel, quoi. Enfin, je veux dire, elle est teubée. On lui explique 15 fois que, tu vois, il y a un étage zéro à Paris, alors qu'aux États-Unis, non. Et elle monte au quatrième étage en pensant que c'est
elle, genre, et tu le fais exprès, c'est pour trouver le love interest. Oh là là,
c'est
là
tout
là
ça
là.
Pour trouver le son voisin qui est galbé comme un dieu grec.
Oh my god.
Et qui lui dit utilise bien sûr ma douche si la tienne est en panne. Non mais c'est
c'est un chef-d'œuvre.
Honnêtement, vraiment, je vous le recommande, mais bon, m'en voulez pas si vous trouvez ça nul. Je vous préviens. C'est nul.
Je me permets juste un truc sur Emily in Paris, c'est que au-delà de, en effet, la petite américaine qui arrive en France pour nous dire qu'on est tous des connards et qui nous fait la leçon, c'est assez agaçant. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi les Français en permanence, à l'inverse. Mais
ça m'a rappelé les meilleurs épisodes de Beverly Hills quand Brenda, elle débarquait à Paris et tu voyais très bien que le Paris c'était un Paris de studio. Là, le Paris il est naturel, mais par
oui,
contre.
Oui, mais justement, alors c'est ça que j'aime bien.
La meuf, elle a une chambre de bonne de 60 mètres carrés dans le 5e.
Ça, c'est magique. Non, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et que quand t'es parisien, tu fais OK. Mais ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est cette idée d'un seul coup de réenchanter Paris. À un moment donné, on a tous, et surtout nous les Parisiens, une vision de Paris où c'est chiant, les gens sont des cons, il y a des embouteillages, des trottinettes, allez tous vous faire voir, enfin, il y a rien qui va. Et là, en fait, d'un seul coup, sous cet œil-là, complètement sucré, excessif, too much, mièvre, je suis tout à fait d'accord avec ça. Eh bien, moi, j'ai été contente de revoir Paris sous un moment enchanté, où d'un seul coup, je me dis, ah oui, c'est quand même une... On peut rêver de Paris, on peut faire de Paris une belle ville. On n'est pas obligé de l'avoir que sur le prisme de la personne qui a envie de brûler Paris parce que c'est tous des cons.
Donc, vrai, tu as raison, tu arrives à la même conclusion que le Canal Football Club. Paris est magique.
Paris est magique, voilà.
Je sais pas, j'ai dit ça au hasard. Je connais rien au foot, j'ai dit ça au hasard, c'est juste pour la punchline. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là et de m'avoir accompagné pendant cette année. Beaucoup confiné, on a essayé quand même de parler de comédie malgré les conditions, malgré aussi le fait que on a quoi, on a 8 mois sans cinéma, 8 mois sans salle de cinéma, on a eu quelques projets presse et puis après pouf, plus rien. Enfin quelques projets presse, non, nous on va quasiment pas aux projets presse puisque les comédies on va les voir en salle, on va avoir la réaction des gens qui rient dans les salles, c'est ça la comédie. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans ses péripéties, Yérim et Perrine. Et puis je remercie aussi la technique qui nous a aidé de produire ces épisodes très souvent à distance. On a pu en faire quelques-uns en studio. Et souvenez-vous, en studio, comme c'était rigolo. Vous vous souvenez, on se faisait des brofistes, on était contents de se voir et tout. J'espère que ça. Voilà, je fais un vœu pieux pour 2021. Je veux que ça revienne. Je veux qu'on se revoie. Merci à tous les deux. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées sur SoundCloud et compagnie. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Désolé pour le bruit ambiant. Il est possible que c'était l'heure de la purée de mon fils. Je suis désolé, c'est comme ça. Et puis on se retrouve pour une autre émission l'année prochaine. Je vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao et bonne fête.
Ciao.
Salut.